Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jacques Drillon, qui publie sur Léonard, chez Gallimard, dans la collection L'Infini. On étudie, on a étudié, on va étudier, mais au moment de jouer, on oublie tout cela. Cela marche ou non, le public est fasciné ou ne l'est pas, c'est un don. On ne peut expliquer ce don. Il vous a été fait pour toujours ou pour un moment seulement. Pour commencer cette émission, Jacques Drillon, j'aurais pu aussi bien ouvrir par cette autre phrase, alors celle-là n'est pas de Léonard, mais de vous dans votre livre. Il est entré dans le monde de l'élégance par la porte du clavecin.
C'est-à-dire qu'il y a, oui, ce monde de l'élégance à plein de portes, mais c'est un monde unique. C'est ça que je voulais dire, et que... Il aurait pu entrer par la porte de l'architecture, de la médecine, de la sculpture, de l'écriture, et qu'il ait joué du clavecin est une péripétie de l'histoire. En fait, l'important, c'est qu'il soit dans ce monde-là, dans ce monde de l'élégance, où il retrouve tous les autres, de tout pays, de toute discipline, de toutes époques. C'est une sorte de constellation, comme ça, qui veille sur nous.
Ce livre que vous consacrez à Léonard n'est pas votre premier livre. Vous avez publié une quinzaine, et pas seulement sur la musique. Quelquefois, vous êtes venu dans cette émission les présenter. Il y a des livres de grammaire, des livres de littérature, des récits. Il y a aussi des livres sur la musique, quand même, quelques-uns. En particulier... De la musique que vous avez publiée il y a 10 ans, exactement dans cette même collection L'Infini de Philippe Solers, chez Gallimard.
Oui, c'est héroïque d'écrire sur la musique. C'est héroïque parce que c'est à peu près impossible. Donc on tourne autour en cercle plus ou moins serré, parfois très très large. Mais on tourne autour. Je crois que la musique fait partie vraiment d'une sphère qui n'a absolument rien à voir avec tout le reste. C'est idiot de dire que c'est un art plus abstrait que les autres. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a strictement rien en commun avec rien. avec rien. Donc ce soit, on a, c'est-à-dire qu'il y a deux terres, quoi. Il y a deux planètes. Il y a une planète où il y a tout le monde et toute chose, et puis une autre petite planète à côté qui s'appelle la musique, avec laquelle on est en correspondance ou pas, et, mais qui échappe à tout, qui échappe à toutes les lois, à toutes les habitudes, à tous les poncifs, à tous les vocabulaires, à tous les lexiques, à toutes les syntaxes. On ne sait pas comment c'est possible qu'une chose comme ça existe. Donc écrire sur la musique, déjà qu'écrire tout court c'est difficile, mais alors écrire sur la musique c'est vraiment... Donc on écrit sur les musiciens, on écrit sur les styles, on écrit sur les époques, on écrit... Mais c'est un... Oui, c'est un art à part. Mmh. Et donc quand on écrit sur un musicien, par exemple sur Leonhardt, on se rend compte que tout d'un coup ça devient non pas tentaculaire mais complètement rhizomatique, comme ça c'est, on touche à tout, et on pourrait toucher à tout, il suffirait de tirer le fil suffisamment longtemps avec suffisamment de précision, de force, et puis tout viendrait. Donc c'est très dangereux parce qu'on on est un peu perdu devant cette énormité-là.
Écrire sur un musicien, c'est devenir un peu musicien soi-même, c'est-à-dire interprète.
Oui, exactement. En tout cas, quelque chose comme exégète. Quelque chose comme... qu'est-ce que ça veut dire, enfin, c'est la fameuse phrase de Claudel, c'est... qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire avec le sens de vouloir? Qu'est-ce que ça exige de dire aussi? C'est les deux choses, hein. Qu'est-ce que ça signifie, puis qu'est-ce que ça exige de dire? Qu'est-ce que ça véhicule volontairement comme signification? Et donc, quand on est face à un musicien de cette importance-là, je dirais, pour rester neutre, puisqu'il s'agit de ce Gustav Leonhardt-là, enfin, donc, on se fait une espèce de passeur entre une simple action qui consiste à jouer des notes sur un instrument de musique, et puis tout ce que ça signifie sur de vision du monde, de liberté, d'évasion, enfin, c'est-à-dire qu'on arrive tout d'un coup à reconstituer cette espèce d'époque dont parle Philippe Muret dans la deuxième préface à son Céline, a dit ça très très bien, où il dit qu'on a quitté l'époque où les contradictions étaient possibles, où le faux et le vrai coexistaient, et où on n'avait pas éliminé comme ça le principe de contradiction au profit du principe de précaution. Donc voilà, Leonhardt, c'est quelqu'un qui, effectivement, est encore de cette époque où les choses coexistent, cohabitent, dans un joyeux fourbi, pas toujours très profond, parfois extrêmement profond, parfois abyssal, et parfois très très léger, mais où tout ce qui fait la vie, effectivement, les une chose et son contraire, le beau, le moche, le préjugé et le terriblement profondément jugé, etc., cohabitent, bouillonnent, et ça s'appelle la vie, oui. Mmh.
Leonhardt, vous ne le qualifiez pas seulement d'interprète, mais d'interprète musicien, dont vous dites qu'il est absolument incomparable.
J'ai repris le mot d'Hofmannsthal, oui. Absolument incomparable, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Mais les grands musiciens sont comme ça, ils sont totalement, totalement seuls. On peut les mettre ensemble parce que ils ont des choses en commun. Par exemple, cette affaire d'élégance, sur laquelle je m'apesantis certainement un peu trop dans ce livre, mais... c'est-à-dire que finalement, dans ce monde dans lequel on entre par une certaine porte, donc lui par la porte du clavecin, dans ce monde, on trouve des gens... qui sont des pièces uniques, comme en linguistique, vous savez, quand un apax, quand un mot n'apparaît qu'une fois dans un texte, on dit c'est un apax. Il me semble même d'ailleurs que c'est le nom du chien de Renaud Camus, apax. Et voilà, les musiciens sont des apax, ce sont des gens qui n'interviennent qu'une fois, et qui et alors qu'ils sont très très différents, finalement, on peut très bien imaginer que dans l'au-delà, plus tard, ou... Lester Young parle à Leonhardt, qui pourrait parler aussi à Monk, qui pourrait parler à Pirandello, et ils ont ce vocabulaire commun là, qui est le fait d'avoir de s'être imposé, quoi, voilà. Des gens, ce sont des gens qui n'ont pas discuté, qui n'ont pas lutté, qui n'ont pas cherché à faire passer un message ou à faire progresser une idée. Ce sont des gens qui se sont imposés, qui sont souverains.
Très différent du compositeur.
Je ne sais pas. Je ne sais pas très très bien ce que c'est qu'un compositeur. Ils sont là aussi, C'est-à-dire que le compositeur parle une langue, il parle sa langue. Alors c'est une langue qu'il a élaborée lui-même avec ses moyens. Alors, c'est une langue qui parfois est un petit peu pleine de trous, ou alors au contraire très très compliquée, très dense, très. Mais c'est sa langue. Donc on peut dire par exemple que Mozart est certainement l'homme qui a créé la langue la plus complète et dont l'aptitude à parler cette langue a été la plus grande de toute l'histoire. Bon, voilà. C'était une sorte de cohérence absolue entre le vocabulaire et puis le savoir-faire et puis l'imagination. D'autres, non. D'autres ont parlé certaines langues, comme Schubert, par exemple, avec plus de mal. Il parlait sa langue avec l'accent, si on peut dire. D'autres l'ont cherché beaucoup. D'autres en ont changé. Enfin, bon. Tandis qu'un interprète, c'est pas ça. Effectivement, l'interprète, il a à doser exactement sa présence dans l'opération. De combien je vais être là. Et donc l'élégance, pour moi, pour un interprète, ça consiste en ça. Ça consiste à trouver exactement le juste poids de présence de soi-même. Si on dit « je suis transparent, je joue le texte », parce qu'ils le disent tous, hein, « je joue le texte ». Richter, il disait « je joue le texte ». Horowitz, il disait « je joue le texte », même s'il ne le faisait pas d'ailleurs. Mais en fait, personne ne joue le texte. Alors, si on cherche à être transparent, c'est idiot, c'est imbécile, il ne se passe rien. Si on s'interpose, comme font certains, je sais pas, souvent des mauvais musiciens qui arrivent avec un ego beaucoup trop large, beaucoup trop grand et qui prennent toute la place, ça ne va pas non plus. Mais pour être transparent, il faut un investissement énorme de l'ego. Voilà, c'est ça. Et donc c'est de savoir quelle quantité fantastique d'imagination personnelle et d'idées il faut investir dans l'opération de jouer la musique de quelqu'un d'autre pour que le rapport de l'investissement et du bénéfice soit absolument égal des deux côtés, enfin soit constant, je veux dire. Voilà, donc il faut s'investir beaucoup pour devenir transparent.
Pour Léonard, l'affaire semble entendue. Le compositeur est au-dessus de l'interprète.
Oui, mais alors bon, ça fait partie d'une de ces idées que... Enfin, qu'il a le droit d'avoir, moi, que je ne partage pas. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir connaître le niveau auquel on est arrivé. Il y a des petits compositeurs et de grands interprètes. Alors, peu importe le job, l'intérêt, c'est de savoir jusqu'où on est monté. Voilà. Lui est monté extrêmement haut, alors que, je ne sais pas, moi, Czerny est monté moins haut que lui, alors qu'il a composé, je sais pas, 1200 œuvres. Voilà, c'est... Il y a des grands interprètes plus intéressants. Je me souviens très bien d'une phrase que m'avait dite Jean-Claude Pelletier, le pianiste. Il m'avait dit « j'ai pas beaucoup de disques chez moi, mais un disque de Genf m'a fait 5 ans ». Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment importants avec un disque comme ça pour vous nourrir pendant des années.
Et c'est le cas de Léonard pour vous?
Oui. C'est-à-dire que... c'est une nourriture, c'est pas exactement une nourriture. Je veux dire, là, effectivement, c'est le compositeur qui vous nourrit. Mais disons qu'on on garde une espèce de reconnaissance, de gratitude à celui qui vous a ouvert la porte, qui permet à l'œuvre de circuler. C'est un petit peu comme dans le journal d'un curé de campagne, quand le jeune curé de campagne va voir son vieux maître, là, le curé de Torcy, et qui se fait morigéner, qui se fait... remonter les bretelles par ce vieux curé qui lui dit qu'il faut faire ceci, ne pas faire cela, etc. etc. Et le curé en lui-même n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'il n'est que l'intermédiaire entre le petit curé et Dieu, mais c'est quand même grâce à lui que les choses se font, grâce à lui que le jeune prêtre comprend.
Alors Jacques Drillon, écrire et publier un livre intitulé « Sur Léonard », c'est presque un coup de force, car Léonard est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui.
Oui, enfin c'est ce qu'il dit, mais il ne m'a jamais refusé une interview à qui que ce soit. Je suis même allé autrefois, quand je faisais de la télévision, chez lui avec une équipe de télévision. Et vous savez certainement ce que ça signifie, une équipe de télévision, quelque part. France Musique lui a organisé une journée entière. Il y avait des témoignages, tout le monde a parlé, sa sœur, sa femme, ses amis, ses collègues, etc. Non, je crois que ce qu'il ne veut pas discuter. Il est très nietzschéen, finalement. C'est une force négative, la discussion. On s'épuise en discussion, à prouver qu'on a raison. L'aristocrate, celui qui justement a le grand style, comme dit Nietzsche, c'est pas quelqu'un qui discute, c'est quelqu'un qui s'affirme. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis effectivement, c'est comme ça qu'il fait. Et tous les autres, tous ses collègues, ils sont très 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 savants, ils savent énormément de choses, ils ont des raisonnements imparables, ils ont des sources, ils ont des livres dans la bibliothèque, des traités, que Léonard a aussi évidemment. Mais on sent qu'il y a une espèce d'argumentation derrière, constante. Léonard déteste ça, déteste argumenter. Donc il fuit la discussion par une espèce de jeu constant de mauvaise foi, de réponse à côté, de provocation assez godardienne parfois même, dans la stratégie d'évitement. Et puis, il montre bien que ce n'est pas important pour lui, voilà, que la chose est ailleurs.
Vous citez Godard, et j'ai pu remarquer que dans ce livre sur un musicien, le cinéma était très présent.
Ah oui, il est très présent parce que Léonard a tourné dans un film qui s'appelle « La chronique d'Anna Magdalena Bach », qui est un film de Huyet et Straub. Et Straub est d'ailleurs le dédicataire de ce livre. Et dans ce film, Léonard joue le rôle de Bach, ou il le non-joue, enfin... Il joue sa musique et il dit ses textes. Et l'importance historique de ce film, et pas seulement historique, mais l'importance tout court de ce film est telle que je lui ai consacré une assez grande partie du livre, parce qu'il me semble que justement, c'était la rencontre entre Straub et Léonard était absolument miraculeuse, parce que c'était tenon et mortaise, quoi. C'était à la fois complètement contraire, ils étaient à la fois à l'opposé l'un de l'autre, l'un royaliste, l'autre d'extrême gauche, l'un hyper aristocratique et l'autre grognon avec son cigare dans la bouche et tout ça. Mais en réalité, absolument complémentaires. Et quand j'ai dit à Straub, mais ça a dû être l'enfer sur le tournage, vous avez dû vous engueuler toute la journée, il m'a dit pas une seule fois. Bien sûr, nous avons évité les sujets qui fâchent, nous n'avons pas parlé politique. Mais je crois que Léonard avait tellement bien compris la justesse du projet de Straub, et Straub avait choisi Léonard à cause de la justesse du projet de Léonard, que les deux choses se sont mises ensemble parfaitement bien. Mmh. Et alors on arrive à ce couple totalement improbable, enfin en tout cas imprévisible. Je les ai vus il n'y a encore pas très très longtemps se tomber dans les bras l'un de l'autre. Ça faisait un drôle d'effet, quoi, parce que même physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se sont gardés une très grande affection. Straub était mort de trac à l'idée de le revoir, parce qu'il est très impressionné par Léonard. Léonard est très impressionnant. Et il a comme ça une espèce de hauteur naturelle qui vous glace.
Oui. D'ailleurs, vous publiez deux photographies de lui qui donnent une idée de cette hauteur.
Oui. Ah oui, c'est-à-dire que ce sont deux photographies qui sont très très opposées, là aussi. Il y a une photographie de lui, de Léonard, à, je pense, 30-35 ans, c'est à peu près l'époque de la chronique, où il est très malarméen, comme ça, appuyé sur un... debout, non pas appuyé sur une cheminée, mais sur un lambris, et en costume très strict, et le front très haut, comme ça, il regarde le monde qui est en dessous, enfin, très très aristocratique. Et puis une autre photo qui, elle, est beaucoup plus récente, où on le voit expliquer quelque chose à quelqu'un. Il est en gros plan, et il est complètement concentré. Il a la main qui est jointe devant sa bouche, les doigts devant sa bouche, comme s'il était en train d'expliquer une chose compliquée. Non pas de marchander un prix comme au marché, mais il explique quelque chose de compliqué. Donc si on superpose les deux photos, on a assez bien une idée assez en relief comme, du personnage. C'est-à-dire quelqu'un qui est extraordinairement... exigeant, extraordinairement orgueilleux, solitaire, tout sachant, etc. Et puis quelqu'un qui communique aussi, quelqu'un qui est là comme passeur entre l'œuvre et puis le public.
Vous pensez que des images peuvent révéler la vérité d'un musicien ?
Ah oui, je crois, oui. oui. Je revois très bien une photo de Scott Ross, par exemple, en t-shirt, appuyé au dos de sa chaise devant son clavecin, bras croisés, refusant de jouer, en direct à la radio. Un jour, il avait jugé que ne pas lui donner un siège correct était insultant. Et donc, il attendait qu'un siège lui soit apporté. Et donc, c'était en direct, ça a duré assez longtemps. Le pauvre Jacques Merlet, qui présentait le concert, avait dû meubler le blanc. On ne savait même pas si quelqu'un était parti chercher le siège, à vrai dire. Et cette position butée de Scott Ross, bras croisés, attendant avec ses Ray-Ban, et attendant qu'on lui apporte un siège digne de ce nom à lui, Scott Ross, en disait très très long sur cette espèce de mauvaise humeur qu'il avait, justement, cette espèce de pugnacité et de hargne et de rogne qu'il avait quand il jouait du clavecin. Je pense que la photo, oui, certainement, les photos de Furtwängler, les photos de Pierre Monteux, les photos de Gould, bien entendu, le côté complètement anal de cette position au piano, oui, ça dit des choses, ça dit pas tout, mais enfin, ça en dit.
De la même façon que les images de Straub donnent une idée de la vérité de la musique de Bach.
Mais c'est-à-dire qu'il a essayé justement, lui aussi, de s'interposer aussi peu que possible, et donc...
Sans recourir aux artifices cinématographiques.
Voilà, c'est-à-dire pratiquement que des plans fixes ou des travelling extrêmement lents, complètement insensibles. Il filme les musiciens très souvent de dos, donc il les laisse tranquilles, quoi. Il respecte la musique, il respecte les musiciens. C'est-à-dire, je pense pour ça aussi que Leonhardt a marché dans cette histoire, c'est qu'il était filmé en tant que musicien et non pas en tant qu'homme jouant la comédie, jouant le rôle de quelqu'un d'autre. Et alors au début, quand on voit la chronique de Straub, on se dit, mais c'est pas possible, on va pas tenir une heure et demie. Avoir un chœur entier de Passion selon Saint-Mathieu en plan fixe, en noir et blanc et de loin. Et puis en fait, ça passe parfaitement bien, c'est ça qu'il faut. Et après, c'est après qu'on ne peut plus du tout regarder une minute d'émission de télévision sur un musicien, quoi, où on ne fait que voir, une espèce de montage hystérique des gens qui s'emmerdent en filmant et donc qui s'occupent comme ils peuvent en appuyant sur leurs boutons.
Je citais tout à l'heure le livre que vous avez publié il y a 10 ans, Jacques Drillon, dans la collection L'Infini chez Gallimard, De la musique. Dans De la musique, on trouve cette phrase. Un instrument de musique est comme une phrase. Et précisément, Leonhardt voit dans le texte de la musique l'objet de l'interprétation.
Oui, c'est sûr, c'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'il doit faire, mais... je crois qu'il me semble que dans cette phrase, sur la musique comme une phrase, ça avait à voir avec la ponctuation. Il me semble que ce que je voulais dire, c'était que le clavecin et la phrase que le clavecin demande à être joué d'une certaine manière, que la phrase demande à être ponctuée d'une autre de cette manière. Mmh. Donc c'est quelque chose qui... pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la phrase de Claudel, qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça. Comment ça veut sonner? C'est ça la question, c'est comment ça veut sonner. Alors donc, je pense que si Léonard joue si bien du clavecin, c'est qu'il a mieux écouté, il a mieux lu les textes que les autres, c'est sûr.
Et parce qu'il y a surtout... du texte.
Oui,
dans,
il y a du texte.
Dans la musique.
Oui, il y a un texte, oui. Il y a un texte, mais aussi un clavier et une machine. C'est ce mélange incroyable, d'ailleurs. C'est tout le mélange. C'est tout ce mélange qui est intéressant. C'est le mélange d'Ambar, par exemple, qui était un grand intellectuel, un type qui était capable d'écrire des choses extraordinairement compliquées, à côté desquelles les constructions de l'Oulipo les plus folles sont des jeux d'enfants. Mais c'était aussi un expert en orgue. Il se trimballait dans les instruments, il soulevait les tuyaux, il soufflait dedans. Voilà, c'est ce mélange-là. Et donc, il y a le texte d'un côté et puis l'instrument de l'autre. Et Léonard a écouté le clavecin, il a écouté ses exigences, comme un patron écoute les exigences des syndicalistes. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Qu'est-ce que ce clavecin veut? Il veut être touché comment? Et jusqu'à présent, on n'avait pas touché le clavecin comme il fallait. C'est-à-dire que c'est comme quand on parle mal à un enfant ou comme quand on parle anglais à un russe, il faut lui parler sa langue. Et donc il a parlé pour la première fois dans l'histoire, je crois, depuis l'extinction de la chose, depuis la fin du 18e, pour la première fois dans l'histoire, il a parlé au clavecin la langue du clavecin.
Mmh. Instrument difficile, puisqu'il n'est pas capable de beaucoup de nuances, mais, vous le dites, infiniment subtil dans l'enchaînement des notes.
Oui, c'est que du montage. C'est que du montage avec un tout petit poil de mixage. C'est-à-dire que les notes se suivent, mais comme on ne peut pas ni les timbrer différemment, ni les jouer plus fort ou moins fort, on est obligé de ne jouer que sur l'enchaînement des choses. Donc une note est collée à une autre, très très cut, très sec comme ça, ou bien elle est séparée de l'autre par un petit blanc, ou bien elle se chevauche légèrement, la fin de la précédente recouvre le début de la suivante, et puis c'est tout. C'est avec ces trois variables-là qu'on fait la musique. Et donc c'est fantastiquement difficile. Enfin. Mmh. Donc c'est pour ça que Léonard dit qu'il ne prend pas de plaisir à jouer quand il est en public, et ni en studio d'ailleurs, c'est parce qu'il dit que c'est tellement difficile à faire qu'il n'a pas le temps de prendre du plaisir. Toute son attention est focalisée là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que les concerts de clavecin sont si souvent décevants, justement. C'est parce que les gens ne sont pas assez intelligents, quoi. Il faut une tête incroyablement rapide pour faire tout ça en même temps.
Vous disiez que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, vous l'avez interviewé, vous avez été chez lui. Il n'y a pas que des clavecins dans sa maison.
Il y a des meubles, il y a des tapis,
il y a d'autres instruments.
Ah oui, il y a d'autres instruments. Il y a un orgue, il y a des clavicordes. Ça a été un... Il n'est pas collectionneur au sens où il n'accumule pas. Il a finalement assez peu d'instruments pour quelqu'un de son âge et de sa notoriété. Il a beaucoup échangé, il a beaucoup gardé ce qui était meilleur et repassé ce qui était moins bon. Mais il y a aussi une espèce de rapport comme ça complètement physique avec les choses du passé, avec les siècles passés, avec les instruments du passé, mais pas seulement les instruments, les parquets, les peintures, la faïence, la vaisselle.
Pas que la musique dans sa vie.
Il n'y a pas que la musique. La peinture, dit-il en tout cas, occupe une plus grande place, par exemple, que la musique dans sa vie, qu'il a plus de livres sur la peinture. Mais ce rapport au passé, c'est un peu étrange et un peu mystérieux, parce qu'il n'a le fil, la transmission... c'est rompu, quoi. Il arrive vraiment un moment où le fil de la tradition est interrompu. Donc on ne sait plus comment il faut jouer du clavecin. Alors c'est pas tellement qu'il ait retrouvé le fil, c'est pas tellement qu'il ait renoué quelque chose qui était cassé, c'est qu'il a fondé lui-même une nouvelle tradition. C'est-à-dire que ça part de lui. À partir de maintenant, ça part de lui. C'est comme s'il était véritablement... J'ai écrit quelque part dans ce livre que c'était un prophète du passé. C'est quelqu'un qui annonce un certain passé. C'est très paradoxal. Mais enfin, finalement, je me souviens d'un portrait de Charles d'Orléans que Matisse avait fait Et Matisse disait dans un texte qu'il n'avait jamais, il n'avait aucune image de Charles d'Orléans, qui est poète du XVe siècle, dont on n'a conservé rien du tout. Donc il avait fait ce portrait, non pas des visus, évidemment, non pas sur le motif, non pas, mais de mémoire, en quelque sorte. Il avait tellement lu, s'était tellement imprégné de cette poésie, de cette époque, etc., que le personnage de Charles d'Orléans lui était apparu comme ça. C'était donc un petit peu un fantasme, c'était un peu comme quand les gens chatent ou s'envoient des mails sans s'être jamais vus et finissent par tomber amoureux l'un de l'autre alors qu'ils n'ont que quelques pauvres phrases sur lesquelles fantasmer. Et pourtant ça marche, et de véritables sentiments naissent là. Et donc Léonard, il a laissé décanter ses textes et cet instrument jusqu'à un point tel qu'il a pu fonder de nouveau la tradition et avoir l'autorité qui est réservée d'habitude à la tradition transmise. Et confère le Talmud, etc., et toutes ces choses, les commentaires et les commentaires de commentaires, etc. Là, il est tout lui-même, il est la source, il est le commentaire du commentaire, la note de bas de page, etc. Mmh. C'est ça qui est complètement fascinant, c'est un cas unique de création ex nihilo d'une tradition.
Il y a toute une relation avec les mots chez cet homme qui parle peu.
Oui.
D'abord, il a écrit lui-même.
Oui, il a écrit. Alors, quand il écrit, c'est très bizarre, parce que, en général, c'est assez ampoulé, parce que, justement, comme l'écriture n'est pas son langage naturel, là, il se trouve dans quelqu'un qui regarde le passé comme une preuve, ce qu'il ne fait jamais en musique. Ça n'est pas une preuve. Mais là, il le fait comme si... Donc, il a écrit un style un petit peu grand siècle, comme ça, un peu compliqué, un peu ampoulé, un peu tarabiscoté, un peu à Robert de Montesquieu, oui, un peu ça. Très emmerdant à traduire, très difficile à traduire. J'ai traduit un de ses livres, mais ces textes aussi que je publie là-dedans, que j'ai traduit pour l'occasion, c'est très pénible parce que c'est un anglais très 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 recherché, voilà, très précieux, pas élégant, et il n'y a pas moyen d'en faire quoi que ce soit d'élégant. Alors dans le petit livre que j'ai traduit entièrement, qui est un livre, lui, extrêmement technique, c'est bien justement parce qu'il ne cherche pas du tout ça. Il s'est décidé à faire un livre sur l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach pour essayer de prouver que cette œuvre n'était pas l'œuvre abstraite qu'on voulait bien prétendre, qu'on voulait dire, mais une œuvre pour le clavecin comme toutes les autres. Et donc c'est une argumentation, là, pour le coup. C'est la force négative de Nietzsche. Mais, en tout cas, c'est une argumentation qui porte, et alors qu'il a réduite absolument à l'essentiel, justement. Là, il n'a pas voulu mettre du tout de graisse, ni même de muscles. Il n'y a plus que l'os et le nerf, enfin. Donc, les phrases sont à peine écrites. C'est beaucoup de listes, beaucoup d'exemples, de petits tableaux, de choses comme ça, et qui sont à chaque fois une épingle plantée exactement au bon endroit, comme un acupuncteur, totalement dépourvu de contenu littéraire.
Mmh. Et pour vous, c'est un livre sur le livre, un manifeste scientifique.
C'est-à-dire que c'est un livre qui dit voilà comment il faut écrire, oui. Ce genre de livre. Le reste, bon, vous pouvez écrire si vous voulez, vous pouvez faire écrire le style classique de Charles Rosen ou ce que vous voudrez, ça vous regarde. Mais un livre qui veut répondre à une question, un livre de musicologie, voilà, oui, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est donc une sorte de discours de la méthode. Et c'est... ça fait 40 pages, hein, mais finalement, le traité de Harvey qui prouvait la circulation sanguine n'était pas très très épais non plus. Seulement, ça prouve ce que ça veut prouver et ça ne dit rien d'autre. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est, du point de vue moral et intellectuel, un modèle.
Toujours au chapitre des mots, Jacques Drillon, le grammairien que vous êtes, a remarqué que dans le propre vocabulaire de Gustave Léonard, il y a un mot, une interjection, qui le peint. En grande partie, c'est bon.
C'est un homme qui admet. C'est un homme qui admet, qui dit bon. Puisque c'est ça, bon. Puisque vous voulez, bon. Donc c'est quelqu'un qui dit... autrefois, c'était merveilleux. Autrefois, ça veut dire sous l'Ancien Régime. C'était merveilleux, on ne choisissait pas son roi, on ne choisissait pas sa religion, on ne choisissait pas son pays, comme on ne choisit pas ses parents. C'était comme ça, il fallait l'admettre. Et donc il passe son temps à admettre ces choses-là, comme s'il vivait encore effectivement à cette époque-là. Donc il est né en Hollande, il a son âge, etc. Il admet tout ça, il admet les contradictions, il admet que Bach ait été à la fois un génie de l'écriture et un génie de la facture d'orgue. Il admet qu'il soit un homme entouré de belles choses anciennes et puis qui conduit des Alfa Romeo comme un malade sur les autoroutes italiennes à toute vitesse. Il admet ça. Il admet l'autre comme ça aussi. Lorsque l'autre se présente et arrive avec lui-même son histoire, ses désirs, etc. Et Léonard les admet. Bon, ben, puisque c'est ça, vous voulez qu'on parle de ça? Très bien, parlons de ça. C'est une espèce de, encore une fois, c'est pas de la résignation, c'est une acceptation extrêmement positive, extrêmement dynamique. Encore une fois, c'est le ya nietzschéen. C'est plus ça va et plus je trouve complètement nietzschéen cet homme-là. Quoique homme du sud dans l'âme, mais en réalité, du point de vue intellectuel, c'est vraiment ça. C'est admettre ce qu'on est, ce qu'on doit devenir, et on devient ce qu'on est.
L'amour fatigue.
L'amour fatigue, exactement. C'est alors lui appelle pas ça comme ça, évidemment. Si on lui parle de Nietzsche, il attrape des... Mais lui parlera de Dieu, par exemple. Il dira, c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui a fait cela. On n'explique pas l'histoire, ces choses-là. Mais au fond, c'est l'amour fatigue, oui.
Il faut croire en Dieu pour jouer Bach au clavecin.
Oui, ça c'est ce qu'il dit pour emmerder tous ceux qui ne croient pas en Dieu et qui jouent du clavecin. Mais il sait bien que le problème n'est pas là. Il sait bien que c'est là ou que c'est pas là, puis c'est tout, quoi. D'ailleurs, c'est drôle, son producteur qui s'appelle Wolf Erickson, qui a fait je sais pas combien de dizaines de disques avec lui, dit que Léonard, quand on en studio, enregistre tout au plus deux prises. Voilà, quand il fait une première prise, il y a quelques fautes, il en fait une seconde, et puis c'est tout. C'est-à-dire que c'est là ou c'est pas là. C'est pas la peine de passer trois semaines à enregistrer un menuet de Rameau, ou bien on y arrive, ou bien on n'y arrive pas. Bon, là, il y a des petits accidents qui peuvent se produire, alors on corrige les accidents, mais c'est tout.
Et cet homme qui aime d'un amour neuf les choses du passé, vous dites que c'est notre contemporain.
C'est un contemporain qui est un contemporain inactuel, quoi. C'est un contemporain, oui, c'est un contemporain. Il place son argent, je sais pas où, il aime les voitures rapides, les James Bond, il aime bien les blagues salées. Il n'a pas d'agent. Il répond aux lettres à la main, mais enfin, il répond aux lettres. Non, c'est un homme tout à fait du... Oui, c'est notre contemporain. Simplement, c'est qu'il est dans une sorte une sorte de bulle dans laquelle tout se fait un petit peu comme cette image qu'on a d'un continent englouti, comme ça, qui serait sous une bulle tout à fait au fond de la mer et où pousseraient des plantes vertes et où il y aurait des vaches dans les champs. C'est un petit peu ça. Léonard, il est effectivement dans le monde normal, mais seulement... Comme il est le seul à savoir faire ce qu'il sait faire, ça l'isole.
Mais tout de même, votre livre le fait apparaître comme une figure, la figure d'une élégance, pour reprendre ce mot par lequel nous avons commencé cette émission, une élégance dont notre époque semble peut-être un peu se détourner, non?
Ah oui, oui, bien sûr, complètement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la... du passé comme preuve, c'est-à-dire que maintenant tout le monde sait enfin, que l'art n'a plus d'importance, ce qui est important c'est la culture, donc maintenant on est cultivé, on est des universitaires cultivés, on sait les choses, on sait très très bien. Léonard, on se fiche qu'il soit cultivé ou pas, il l'est immensément, il a absolument tout lu, tout écouté, tout vu, etc. Mais ça, c'est pas ça qu'il a fondé, c'est pas ça qu'il a... Léonard, ce qu'il fait, c'est de l'art, justement. Donc, quand Godard dit « la culture, c'est la règle, et l'art, c'est l'exception », c'est exactement ce qu'il veut dire. Et il faut lire aussi les bouquins d'Agamben sur cette question. Donc, le fait qu'on ait glissé tout doucement de l'art vers la culture, c'est ça le signe de la fin des haricots.
Sur Léonard, le livre de Jacques Drillon est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.